C'est la bande originale, soyez les bienvenus avec Leïla Kadouri-Dedi. Monsieur Daniel Morin.
Bonjour Daniel.
Albert Aldou.
Bonjour.
Guillaume Wills.
Absolument.
Et notre invité est Raphaël Hoche. Bienvenue Raphaël, c'est vrai que j'ai tellement l'habitude de m'arrêter à Raphaël,
oui,
mais là maintenant c'est... Bah oui, c'est vrai, ouais. Raphaël, parce
que... Vous avez gagné un nom de famille avec ce livre et beaucoup d'autres choses.
Ouais, exactement, il n'a pas gagné que son nom de famille. Mais le livre est signé Raphaël Haroche, Retourner à la mer, c'est chez Gallimard. On a adoré ce livre, c'est pour ça qu'on est ravis de vous en parler. J'espère, Père Albert, que vous avez compris pourquoi on avait invité Raphaël.
Mais pour une fois, Nangui, j'aurais préféré que vous jouassiez un peu la franchise. Subjonctif imparfait, c'est important.
La quoi? Oh,
la franchise.
Ah, la franchise.
J'avais bouffé un peu le mot.
Il y a une
sinusite. Pas ce que c'est. Au lieu, une fois de plus, de feindre un semblant d'intérêt pour l'invité de cette émission, Raphaël Haroche, que vous venez de citer. Bonjour, Raphaël Haroche. Franchement, vous me demandez si je sais pourquoi nous le recevons, alors qu'il y a à peine 10 minutes, vous étiez en train de tenser GNB, notre rédacteur en chef, en lui criant...
Oui, c'est aussi GNB.
Mais GNB pour d'autres raisons. Je vous cite. Raphaël, passe encore qu'il vienne annoncer ses chansonnettes à taratata, mais qu'il soit invité dans la bande originale pour un recueil de nouvelles, c'est n'importe quoi. Comme Jean-Baptiste vous objectait, je savonne ce matin que le livre est édité chez Gallimard, vous lui avez rétorqué. Mais enfin, c'est pas le premier gribouilleur publié chez Gallimard, mon pote Philippe Labro par exemple. Mais bon, comme d'hab, je vais m'extasier sur le bouquin en paraphrasant la quatrième de couve, que je cite. Raphaël Haroche nous décrit avec finesse, dans un style fin et épuré, les états d'âme d'être malmené. Avec ça et le pitch du Père Albert, je peux tenir 1h30. Voilà dans quelle disposition était Nangui, et puisqu'il attend le pitch, le voici. Dans « Retourner à la mer », il y a un personnage qui aimerait aller se baigner. Voilà. Pour ma part, j'ai beaucoup aimé ce livre dont l'atmosphère m'évoque par certains côtés celle des ouvrages d'Emmanuel Bove, mes amis, ça c'est pour faire un télo, mais c'est aussi un compliment. Mais si j'ai aimé ce recueil, c'est parce que j'ai été bouleversé de m'y retrouver. C'est à la page 95, vous pouvez vérifier.
C'est pas vrai, vous êtes dans le livre.
Albert était venu dans la chambre de Jean-Pierre.
Ah oui, c'est vrai.
C'était une pièce étroite, encombrée de toutes sortes d'objets, déambulateurs, hôtels bouddhistes, encensoirs. Coïncidence extraordinaire! J'ai bien connu un moine qui avait pris pour nom de religion Jean-Pierre. En fait, c'était un ancien légionnaire culturiste roumain de son vrai nom Miroslav Lecu, avec lequel je pratiquais l'haltérophilie. Il avait des pectoraux de taureau, des deltoïdes, des rhomboïdes, des fessoïdes de folie. À la suite d'un accident fâcheux, écrasement des parties honteuses par une barre d'haltère surchargée, Miroslav avait été frappé d'impuissance. Rien de grave, car comme moi, il avait fait vœu de chasteté, mais je tentais quand même de lui faire recouvrer sa virilité en lui administrant des massages apaisants à l'arnica, au méthosil, et des bains de siège d'eau de Lourdes miraculeuse. Tout ça sans résultat. C'est bien que depuis, en guise de pénitence, je demande à Jean-Pierre de se servir de moi comme d'une haltère. Et je l'encourage en lui criant « Vas-y, soulève-moi, arrache-moi, Roumain, épaule-moi, jette-moi, soulève-moi encore et rejette-moi par terre comme une souillon en âne. » Mes souvenirs de tout ça m'a épuisé. Bonne émission.
Merci. Merci.
La bande originale, Nagui. Sur France Inter.
C'est bizarre comme on n'a pas toujours le même prisme quand on lit une nouvelle. Hein. Je la voyais pas
moi
comme ça.
Moi, je suis là.
Ouais, c'est vrai. Retourner à la mer, donc des nouvelles signées Raphaël Haroche. Est-ce que c'est une compilation, j'en ai pas l'impression, hein, une compilation d'histoires que vous aviez annotées depuis un certain temps et réunies là pour les publier, ou au contraire, tout s'est fait dans un même jaillissement?
C'est un même jaillissement, je dirais. Non, j'avais pris quelques notes comme ça depuis quelques années, des petites photos de choses qui, des nouvelles. Il n'y a pas vraiment de début, pas de fin. C'est en suspension. C'est le cas de. Bon.
Des débuts d'histoire ou de situation.
Oui, enfin, c'est pas la promesse de grand chose. C'est ça qui me plaît moi dans les nouvelles. Mais c'est vrai, Emmanuel Bove. Oui, c'est vrai. Moi, j'aime beaucoup. Enfin, je prends ça comme un très gentil compliment.
Et c'était dit comme un compliment.
Ouais. Ah oui. Ouais, j'adore. C'est un héros, quoi.
Ah oui. Bon, ça m'étonne pas parce que j'ai ressenti ça à la lecture de plusieurs nouvelles. Donc, Le hasard fait bien les choses, hein, c'est formidable.
Il y a une ambiance par moments morbide, la mort est très présente, la mère aussi est très présente.
Mais c'est un peu l'histoire d'un mec qui veut aller se baigner.
C'est un peu ça, c'est un peu ça. Mais l'eau n'est pas toujours...
dites pas ça.
L'eau n'est pas toujours vue par un prisme très, très positif. Elle peut être symbole de naissance, elle peut être symbole de mort. Il y a notamment une nouvelle, alors pardon, j'ai pas le titre en tête, mais il y a une nouvelle où il y a un accident de voiture...
Le dernier des pères.
Ouais, et où on a vraiment, on voit ce parallèle fait entre la naissance, la mise au monde d'un enfant dans la douleur ou le baptême, et cet accident où il essaye de sortir l'enfant. Ouais, il y a deux, trois moments où moi je suis surpris par la fin, je me dis, ok, là c'est.
Moi aussi, je me suis attendu à une fin.
Plus morbide, plus morbide.
Exactement.
Et en fait. Non, moi j'étais optimiste. J'étais très optimiste.
Mais, non, mais cette noirceur que l'on retrouve dans certains de vos textes c'était justement pour soigner cette noirceur. Ça vous fait du bien d'écrire
J'ai l'impression que le monde est un peu comme ça, c'est-à-dire que je trouve pas si noir ce livre, moi je trouve assez marrant en fait, je trouve ça drôle. Après les personnages sont confrontés à des situations souvent difficile ou tragique, mais il s'en sort très bien, ce père, par exemple.
C'est vrai, qui sauve son enfant.
Il s'en sort vraiment bien, il réagit pas mal. Hein.
Il y a même des personnages qui sont, je pense à Lazare,
ouais.
On peut dire un clochard, SDF, qui est vraiment dégradé, mais curieusement, il y a beaucoup d'espérance à la fin de...
Ouais, j'aime bien, il interprète les signes d'une manière qui l'arrange. Quoi.
Alors, on va vers le pire, et au dernier moment, virage à 180, c'est formidable.
Hein, ce qui est fascinant, c'est surtout cette dimension psychologique, en fait, parce que on parle de nouvelles, on parle de style, mais c'est vraiment une plongée dans l'esprit de quelqu'un, du personnage qui est le protagoniste de la nouvelle, que ce soit un enfant, que ce soit un gardien, un surveillant d'immeubles, de stades, que ce soit une femme, je trouve que vous parvenez avec une acuité assez folle à vraiment rendre compte de l'état d'esprit d'un personnage, de la pensée d'un personnage, qu'il ait 7 ans, que ce soit cet enfant qui a perdu son frère et qui l'apprend en colonie de vacances, que ce soit ce père, alors là on pourrait dire que c'est un peu plus logique, vous êtes un homme, vous êtes père, donc la femme aussi qui se demande ce qu'elle fait là avec son mari et qui va justement s'approcher de la mère, je trouve que c'est...
Il y a cet employé aussi dans des abattoirs qui sauve un petit veau.
C'est très étrange.
Tu fais la grimace.
Parce que elle est très dure.
Bah oui,
je
elle
trouve
est
cette nouvelle. Et je trouve que c'est d'ailleurs
forte,
un très bon choix de la mettre en pièce liminaire, en fait, dans ce recueil. Parce que, je parle de recueil parce qu'il y a quelque chose de très ouvragé, proche de la poésie. Et là, pour le coup, cette nouvelle m'a beaucoup fait penser à tous les courants de la littérature américaine. Et j'ai vraiment été stupéfaite, Raphaël Laroche.
C'est trop gentil.
Cette dimension psychologique, comment vous faites pour vous placer aussi bien
dans la peau de...
Je vais trouver des phrases qui sont magnifiques.
Je pense que ce qui m'a aidé, ce qui m'a permis d'écrire le livre, c'est que j'ai travaillé sur des scénarios de films, notamment un scénario avec Samuel Benchetrit et un autre avec Thomas Bideguin. Et avec Thomas, on a travaillé pendant 2 ans sur un scénario et l'idée de toujours se mettre au niveau des personnages, de monter les marches les unes après les autres, alors qu'avant, quand j'avais essayé d'écrire, je faisais des choses un peu... Alors, j'avais lu quelques pages de Joyce, je me disais, bon, bah, ok, d'accord, plus de syntaxe, c'est le bordel, allons-y. Et puis, une fois la tête passée, le reste
pratique,
suit.
Hein.
Ça peut être très pratique. Mais il y a un moment donné où on sait plus de quoi on parle, on se perd et tout ça.
Quand on n'est pas Joyce, c'est...
Ouais, quand on n'est pas Joyce, on est nombreux à ne pas l'être. Et comment il y a cette chose de simplement de parler le plus simplement possible. Et puis j'ai un éditeur qui est très très bien, qui s'appelle Aurélien Masson, qui travaille chez Gallimard, qui est aussi un copain d'enfance, qui s'occupe de la série noire chez Gallimard, qui m'a vachement aidé pareil à rester très simple, très ascétique en fait. On partageait un peu l'idée de pas se répandre.
Oui, y a pas
quand
de gras,
on a quelque chose à dire, c'est comme en chanson, il faut pouvoir le dire en 10 phrases. Ça n'empêche pas d'être poétique, mais c'est pas de bavardage. Quoi. Dès que j'arrivais avec quelqu'un, il disait tu bavardes, chut, chut. Voilà. Et puis
aller à l'essentiel.
Ouais. Je pense que et puis ça produit plus d'images souvent. Alors si on parle beaucoup, on se dilue un peu.
C'est très suggestif. Il y a une phrase par exemple dans l'escalier, c'est une nouvelle que j'ai beaucoup aimée. Je ne voudrais plus rien apprendre de nouveau pour ne rien oublier de mon frère. Moi, c'est une phrase qui m'a bouleversée.
Oui, parce que l'idée de dire que la mémoire efface le plus ancien des souvenirs, et chaque fois on rafraîchit comme ça la mémoire vive. Donc,
qu'est-ce qu'on fait pour l'être cher qu'on a perdu si on veut le garder en mémoire?
Exactement. Et
là, j'ai pensé à Annie Ernaux, à L'autre fille, à beaucoup de ces textes-là où il y a ce sentiment-là du passé, du présent, et de cette sensation de se dire qu'on sera plus jamais le même si on laisse échapper l'instant.
Il y a quand même un peu de vous aussi, j'imagine, dans chacun des personnages.
Mais même ça, par exemple, c'est une question que je me pose. Moi, quand j'étais petit, j'étais hyper amnésique. Je pouvais me souvenir de tout. Je pouvais me souvenir de ce que j'avais mangé pendant un mois, par exemple. C'est pas très utile, mais c'était presque assez encombrant.
C'est le cas de Daniel Morin.
Ouais, en même temps, c'est tous les jours la même chose, donc c'est pas compliqué.
Il a résolu le problème.
Mais je m'en souviens. Pour le coup, je m'en souviens.
Mais je me souvenais de tout. Et maintenant, je suis dans un espèce de brouillard permanent. Par exemple, je sais que on m'a demandé de choisir des chansons. Ouais. Je l'ai fait hier, je me souviens déjà de rien, absolument. Mais j'aurai une surprise, il sera absolument non fin.
Vous avez mangé quoi avant-hier, en revanche?
Je me souviens de rien. Ah, maintenant, et j'ai lu un peu des choses là-dessus, et c'est vrai que j'ai l'impression qu'on a une capacité de stockage comme ça un peu limitée. Donc, qu'est-ce que c'est que quand on essaye de garder des souvenirs anciens? Et je sais que, par exemple, ma mère a perdu sa mère quand elle était enfant. Et c'était quelque chose qu'il a travaillé, elle avait 4 ans, et de cette espèce de mémoire qui s'effaçait après le recréer des souvenirs. Et j'ai un peu grandi avec ça. Puis il y a beaucoup de moi dans chaque nouvelle, bien sûr.
Voilà, parce que le cadre que vous choisissez, et la raison, la première nouvelle, on la prend, mais comme une claque dans les yeux et dans le cœur, parce que c'est vrai que ces images de bétail abattu, de souffrance, de sang qui coule, les yeux révulsés qui deviennent noirs, enfin, tout ça sont de mouches qui volent autour de ces carcasses. Oui, ça donne la chair de poule, évidemment. Ça, on se demande si c'est pas un message vegan que vous cherchez aussi à faire passer, parce que le végétarien...
On réfléchit avant de se faire un beefsteak.
Oui, ça c'est sûr.
Quand on a de l'imagination, de toute façon, on réfléchit avant de se... C'est vrai que ça pose un problème.
Mais ça revient assez souvent, même quand il y a le voyage, on est dans la gare et il y a ce pianiste dans la gare, la fiancée va acheter un sandwich au poulet, il y a la réflexion du « je croyais que t'étais végétarienne » et ainsi de suite. Donc c'est vrai que ça, c'est très... ça flotte en tout cas tout le long de ces nouvelles. Et puis ce monsieur qui pourrait être habitué à la mort du bétail, d'un coup est ému par le regard d'un veau. Il ne sait pas ce que ce regard lui rappelle. Ça va peut-être même le troubler sexuellement.
C'est très ensuite, cinématographique d'ailleurs.
C'est incroyable.
On peut l'imaginer filmé, on peut imaginer les flashs entre le moment où...
C'est-à-dire il fait l'amour à sa femme et il pense à un veau, c'est quand même...
Il retrouve le regard.
Je plaisante.
Mais non, c'est quand il fait l'amour au veau qu'il pense à sa femme. C'est
quoi la différence? C'est les garçons.
Ça n'a rien à voir.
Comment tu souillais en 4 secondes?
C'est incroyable.
Faire œuvre de littérature, ici c'est compliqué.
Et puis il y a aussi cet assistant sur un film qui dort à côté de sa fiancée, qui est allé voir l'historique sur internet et elle a vu quelques...
Est-ce que c'est vécu, c'est ça la question?
Non, c'était pas ça. Mais c'est d'un coup, c'est cette phrase, c'est qu'on ne connaît jamais parfaitement les personnes que l'on aime, les gens avec qui l'on vive, et sur l'historique, ça lui fait peur de voir quelques secrets. Finalement, il faut pas trop gratter, il faut pas aller chercher les secrets des autres.
Non, de toute façon, il ne faut pas aller chercher les secrets des autres. Je ne crois pas du tout à ça, moi. Mais comment, pour ces deux histoires, c'est à chaque fois un tout petit point qui fait que l'histoire naît. Par exemple, l'histoire dont vous parlez, de ce type qui a une insomnie. Moi, j'ai rencontré quelqu'un qui tournait avec moi sur un clip et qui me dit, oh putain, hier, j'ai fait de la régie sur un film et on était dans un cimetière, quoi. Et donc, j'imagine ce que c'est que de faire de la régie dans un cimetière. Empêcher des gens de passer, empêcher des gens d'aller prier sur une tombe, c'est quand même très particulier. Et puis aussi, ça convoque un peu le pouvoir du cinéma, la chose comment taisez-vous, c'est du cinéma.
Silence on tourne. Ne bougez pas, madame, on va tourner. Vous ne pouvez pas aller vous recueillir sur la tombe de votre fille.
Et l'autre chose, l'histoire des abattoirs, c'est vrai que moi, j'y connais rien. Je mange pas de viande, personnellement, mais je mange beaucoup de poissons. Bon, on s'en fout.
Et la souffrance du poisson, alors vous y pensez, la souffrance du poisson?
Bien sûr, alors j'ai aucune considération pour les poissons, on ne sait pas pourquoi. Mais,
et d'ailleurs, il y a beaucoup de...
Je peux pêcher des poissons, je peux les tuer, les manger, je peux le faire. Une vache, je ne pourrais pas tuer une vache. Une vache, j'aurais plus de chances de me tuer que l'inverse, je pense.
Et vous avez
s'il y avait un combat.
Mais pourquoi il y a autant de morts dans l'eau, dans vos nouvelles? Il y a beaucoup, l'eau est...
C'est pas vraiment des morts, c'est... Moi, il y a un truc qui me fascine.
Des étouffements ou des dangers.
Le titre de cette nouvelle, le titre du livre et le titre de la nouvelle vient d'une chose assez simple. Je visitais l'aquarium du Gros du Roi dans le sud de la France avec mon fils. Et on regardait tous ces animaux. Et le soigneur, qui était très sympa, nous montrait un ours polaire. Et il nous disait, tu vois, cet ours polaire, si on lui laissait suffisamment de temps, si on lui laissait, mettons, 5 siècles, il aurait le temps de s'adapter et de retourner à la mer comme les orques ont pu le faire, comme les dauphins ont pu le faire, comme d'autres mammifères terrestres ont pu le faire. Mais les changements climatiques, le monde va tellement vite qu'il n'aura pas le temps de s'adapter et qu'on verra ces scènes désolantes où on voit des gros ours sur des glaçons qui dérivent comme ça avec assez peu de perspectives, quoi. Et ça m'a fait penser un peu à nous, à la manière dont on vit, et puis ce que dit même la première nouvelle, c'est la manière dont on traite les animaux, c'est aussi la manière dont on traite nous-mêmes, parce que ces deux employés d'abattoir polonais, bon, qui parlent de films en vidant des carcasses et tout, ils ont quand même une vie très dure, quoi. C'est une grande souffrance aussi qu'on inflige aux hommes, je pense.
Mais et puis il y a Dieu aussi, il y a une question, notamment vous dites le ver de terre qui voit passer un avion tellement immense, il doit se dire bah c'est ça Dieu, tellement c'est fort. La poule doit se dire que Dieu c'est le coq, parce que dès qu'il chante le soleil se lève, c'est-à-dire qu'on donne le nom de Dieu à ce que l'on ne comprend pas, ou ce qui impressionne, c'est à la fois, ça rejoint aussi, je m'adresse au père Albert, un spécialiste. Ça s'adresse aussi à ceux...
Une petite confession flash?
Non, ça s'adresse à ceux aussi qui disent que Dieu est partout. Si on ne comprend pas qui il est, c'est aussi un message. Mais alors, est-ce que là, c'est sur votre propre croyance que vous...
Moi, je suis vraiment pas un spécialiste de théologie du tout. Mais non, moi, c'est... J'aimais bien cette phrase de... Moi, c'est mon grand-père qui me disait ce truc-là. Des fois, je parlais de Dieu, je lui disais, est-ce que Dieu existe? Il me disait, t'es un imbécile. Si vraiment un ver de terre voit passer un avion en réaction, il se dit que c'est Dieu. Voilà, t'es exactement pareil.
Alors, mais c'est fort, c'est fort. Et vous avez raison, il y a beaucoup d'humour aussi dans le livre. Il y a d'abord beaucoup de musique.
Ouais, beaucoup de musique.
Évidemment, c'est Bowie, et évidemment, il y a de la musique, mais surtout, il y a les textes, c'est-à-dire que vous choisissez les moments, les couplets, les phrases exactement dites, et elles ne sont pas choisies par hasard. C'est comme intégrer une espèce de zapping au milieu de...
Vous voulez dire la nouvelle où il y a des phrases de Bowie? Ouais. Alors ça, c'était une nouvelle. Ce qui m'intéressait beaucoup, c'était ce qui se passe pendant que les chanteurs chantent, bizarrement. Et moi, quand il y a une époque où je passais beaucoup à la radio et où des gens venaient me parler, me raconter des choses un peu parfois intimes et souvent tragiques de ce qui s'était passé pendant...
Que votre chanson passait à la radio?
Oui, au moment des chansons qui étaient associées. Par exemple, il y avait cette chanson 150 ans qui était associée à des moments de la vie de certaines personnes. Enfin bon, et ça m'avait travaillé. Et j'essayais d'imaginer une tragédie qui se déroule pendant qu'une compilation de Bowie passe en voiture. Voilà. Mm-hmm. Et j'y ai pensé parfois à ce qui se...
La bande originale de la vie.
Ouais, un petit peu, bien sûr.
Ça, la BO de la vie. Ouais. Et puis il y a des moments, moi, j'ai été pris pratiquement d'un fou rire en lisant. Je crois que c'est d'ailleurs ce même monsieur qui dort à côté d'une fille qui doit faire une voix. Mmh. Elle doit doubler. Elle doit faire une voix. Alors c'est extrêmement grave. On est là. Et le mec, il est en insomnie, il se pose des questions sur pourquoi il est avec elle. Est-ce qu'il a envie d'elle encore ou pas, et ainsi de suite. Et elle doit se réveiller pour aller faire une voix et elle doit doubler une pompe à essence.
Elle double pas une voix. Oui.
Elle doit faire la voix de...
Des pompes à essence, ouais.
Des pompes à essence. Et là, j'ai ri tellement, parce que c'est vrai qu'on n'imagine pas que quelqu'un un jour est allé travailler devant un micro en disant veuillez insérer votre carte dans la pompe à essence.
C'est des belles voix sensuelles, souvent. C'est vrai.
Qu'en faites de plein.
Moi, je leur parle, je leur dis merci.
Ouais, moi, parfois aussi.
Au péage et tout ça. Ouais.
Et au GPS aussi, tu réponds dans la voiture.
Ah oui, bien sûr, je dialogue.
À la SNCF aussi, sur le quai, la voix de Brigitte.
Puis c'est l'accent, vrai. Parfois l'accent du GPS, ils ont des fois des accents américains comme ça, très fort. On des phrases des nombreux français.
C'est exotique, c'est bien.
C'est très...
Retourner à la mer, vous l'avez compris, on a été touchés, on a été émus. On se reconnaît aussi dans certains personnages. personnages, on est, il y a une forme presque d'exutoire. Ça fait du bien. On se dit, on n'est pas les seuls à avoir peur de la nuit ou à entendre des bruits bizarres et en se disant qu'est-ce qui se passe dehors.
Je me suis senti proche du veau, moi. Non, de faire massacrer régulièrement.
Non, non, lui, le veau, il est protégé, il est sauvé, au contraire, lui.
Ouais, et puis il y a des personnages qui ont une violence contenue qui est assez dingue. Mmh. Je me disais, dans les premières nouvelles, il y a cette notion de violence qui réapparaît souvent. Mmh. Ça sort d'où ?
Bah, y a une colère qui nous entoure, qu'on sent, quoi. On sent derrière le... Bon, ouais, je sais pas, une colère qui est sans doute due à la vie en société, qui est due aussi à la manière un peu folle dont on vit aujourd'hui, quoi, entre le... Je sais pas, on est...
C'est quoi la manière folle dont on vit ?
J'en sais rien, moi-même, ces choses de réseaux sociaux, d'informations permanentes, il se passe 14 000 choses entre le moment où on ouvre les yeux et le moment où on allume un téléphone portable, je sais pas quoi, tout est... C'est assez violent, finalement. Et ça peut rendre un peu fou. Enfin, il n'y a pas que ça, d'ailleurs, il y a plein de raisons d'être en colère. Mais... parfois, on se dit qu'on marche sur la tête, quoi, et qu'on a juste envie de voir un arbre quelque part, enfin, souvent même.
Retourner à la mer, c'est chez Gallimard. Raphaël Laroche est notre invité. On a aimé ce... Bon, c'est ces nouvelles, voilà, puisqu'il faut les présenter comme ça, mais c'est ces histoires. Et surtout, on a aimé cette ambiance et cette délicatesse. Vos oreilles ont sifflé, Léla, quand on vous a dit que Raphaël Laroche était notre invité.
Et oui, quand je pense à vous, Raphaël Laroche, je pense à une chanteuse, et une chanteuse qui devrait faire son effet au sens où la musique, vous l'avez dit, est associée à des moments de vie, et elle permet de ressusciter, le souvenir.
Une petite cantate du bout des doigts, obsédante et maladroite, monte vers toi. Une petite cantate comme nous jouions autrefois, seule je la joue maladroite, similaire et sans le dauphin. Cette petite cantate.
Une petite cantate, Barbara, qu'est-ce que ça vous évoque, Raphaël?
C'est une très très belle chanson. En plus, ces enregistrements de cette époque de Barbara sont incroyablement précieux. On entend la voix qui crépite, on entend chaque détail. C'est d'une beauté inouïe. Et moi, ça m'évoque des choses très... Ma mère aimait beaucoup, elle aime toujours d'ailleurs beaucoup Barbara. Donc c'était un truc un peu de comme une berceuse. Et puis j'avais l'impression que c'est une chanson pour quelqu'un de disparu. Donc j'avais l'impression qu'elle-même parlait de sa propre mère, comme on a ces trucs quand on a 4-5 ans qu'on comprend pas très bien. Mais puis c'est une très très belle chanson et encore aujourd'hui je trouve qu'il y a des modulations qui sont assez folles. Ça paraît des chansons très simples et en fait il y a un système harmonique chez Barbara qui est très étonnant et très... Enfin je sais pas, c'est beau. Ouais,
Et qu'est-ce que vous pensez de tous les hommages qui sont rendus à Barbara en ce moment, c'est l'année?
C'est bien, c'est beau, c'est magnifique.
Et les reprises, super. Parce qu'il y a beaucoup,
oui.
Ouais, c'est du Bruel ou Depardieu qui chantent Barbara.
Aussi Alexandre Tarot qui a réuni pas mal d'hommes sur scène. Si vous deviez reprendre une chanson de Barbara...
Moi, ce serait celle-là, ouais, la petite cantate que je trouve. Mais bon, je chante pas bien, Barbara. Je l'ai fait quelques fois. C'était à chaque fois, je lui rendais pas un hommage.
Un service.
Non, je lui rendais pas un service. Mais par contre, c'était beau là. J'ai pas vu les autres, mais Depardieu, j'ai vu. C'était beau, c'était très beau, c'était magnifique.
En poursuit, quand je pense à vous, je pense à l'un de vos auteurs fétiches. Tendez bien l'oreille. Il a un fort accent.
C'est vous qui l'avez inventé ce terme-là, Beat Generation.
Oui, j'attends, oui. J'ai entendu des vieux bonhommes dire ça, dans le sud, des vieux nègres, beat.
Dans le sens de écrasé, de vaincu.
Oui, pauvre. Après ça, j'ai été dans la petite église de Saint-Jeanne d'Arc. Puis d'un coup, j'ai dit, ah, beat, béat.
Béatitude.
Beato en italien, beato.
Mais est-ce qu'il n'y avait pas aussi le sens de beat de l'orchestre de jazz?
Oui, puis le sens de tout ça, puis de tout ça.
Jacques Kerouac.
Incroyable.
Jacques Kerouac est l'inventeur du terme Beat Generation. Ouais. Je crois que c'est un auteur qui compte. Et vous êtes un gros lecteur, en fait, Raphaël.
Mais en fait, j'ai quasiment jamais lu Kerouac. Alors, j'aime bien le personnage, j'aime bien sa voix, j'aime bien ce côté... C'est un peu...
Même quand on fait une chanson qui s'appelle Sur la route.
J'ai jamais lu Sur la route, par exemple. Ouais. J'ai jamais lu ce livre.
Tout le monde en a parlé au moment de la chanson.
Oui, mais bon, j'ai appelé mon fils Alyosha, j'ai jamais lu Les Frères Karamazov, par exemple. Non, c'est des intuitions comme ça.
Viendra.
Ça viendra, peut-être. Mais peut-être je lirai Sur la route et Les Frères Karamazov la même année. Je me dis, oh, mais quel con. Quel abruti.
J'aurais pas dû l'appeler comme ça.
Qu'est-ce que j'ai fait comme connerie, dans ma vie.
Qu'est-ce qui vous séduit chez Jacques Kerouac? Et après, on parlera de littérature. Mais...
Non, c'est un grand écrivain, bien sûr. Et puis, il est comme ça, incernable. On sait pas trop. C'est comme Bob Dylan. Alors, je sais qu'ils sont très proches et que c'était un peu le héros de cette génération, Brando, Dylan et tous ces mecs-là. Je pense que c'est pour ça que je me. Mais, Mais c'est le côté, on peut pas le réduire, on peut pas savoir ce qu'il pense, on peut pas savoir où il est, on peut pas savoir s'il est... J'aime bien ce côté, comment on dit...
Inclassable ?
Ouais, exactement. Insaisissable. Inclassable, insaisissable.
Et justement, en lisant...
Très alcoolisé, Jack Kerouac.
Ah, ça, oui, très imbibé. Ouais. C'est le principe.
Non, c'est peut-être pas... C'est le sien, en tout cas.
Oui, mais cette génération-là, de ce mouvement-là, je pense qu'ils étaient particulièrement imbibés.
Génération qui avait soif, quoi.
Avant, et puis, c'est quand même ce truc un peu avant garçon, aussi, hein. Jack London, quoi, ça vient de ça, le mec.
Voilà, London, il était imbibé profondément. Bien sûr. Et c'est un immense, peut-être, il y a l'ombre de London qui pèse sur Kerouac.
Bien sûr, bien sûr. Et London, c'est le même, ils s'engagent sur des bateaux, c'est des aventuriers en même temps. Alors, ils rêvent leur vie. Enfin, London, c'était un vrai aventurier.
Ouais. Aventurier ou désespéré?
Qui venait de
aventurier,
rien.
Quand même.
Qui court toujours après quelque chose.
C'est plein d'espérance et d'énergie. Hein. Jacques London, c'est extraordinaire. Faut dire, on a un public jeune pour une fois.
Il y a un petit texte sur Jacques London.
Dans le studio, il faut qu'il lise Jacques London et Kerouac.
Martin Eden, c'est un des plus beaux livres que je connaisse.
La fin, justement, Martin Eden, hyper noyé, ça fait penser à certaines de vos nouvelles où l'eau est présente. Il retourne à la mer.
Il y a un petit texte sur Jack London qui est sorti là il n'y a pas longtemps, c'est les premiers mots, une sorte d'autobiographie de Jack London. On voit son itinéraire, on voit ce type qui venait de rien et qui souhaitait, par l'ascenseur social, gravir les marches. Il a essayé plein de choses, il a essayé le commerce de filets, de pêche. La contrebande, pour ensuite se dire que bon, fallait faire plutôt l'utilisation non pas de ses muscles, parce qu'à terme, ça allait moins marché, mais de son esprit, et que peut-être la littérature allait lui permettre de sortir de sa condition.
Alors, et puis ils ont juste ce truc, les deux, très populaires, t'as l'impression que c'est des copains, que tu les fous dans n'importe quel bar, de n'importe quel rade, de n'importe quelle ville, ils vont être copains avec les trois mecs du coin et se sentir chez eux, quoi.
Puis ils sont lisibles, c'est des grands écrivains, mais n'importe qui peut lire Jacques London, un jeune garçon, une jeune fille.
C'est accessible.
Il est ébloui, complètement, c'est formidable.
Retourner à la mer, c'est très accessible aussi, c'est Raphaël Laroche, c'est très bien écrit, c'est très agréable, c'est chez Gallimard. Voici Guillermo Guiz, c'est son humeur, mais si maintenant, Guillermo.
Vamos. Bonjour les amis.
Vamos.
Alors on est le je sais. Voilà, on est le vendredi 28 avril, hein, comme vous savez, et c'est l'anniversaire de Penélope Cruz aujourd'hui. Ah voilà, je vous le signale parce que sous les trois dernières semaines, Penélope est quand même intervenue 9 fois dans mes rêves et je voudrais profiter de cette tribune pour dire à Penélope que si elle veut tellement faire partie de ma vie, ça peut complètement se faire en journée aussi. Moi, le cul pour le cul, je l'ai fait, j'en suis revenu, c'est bien les 13 premières années, après on se lasse. Là, je me dis tant qu'à faire, Penélope, autant qu'on apprenne à se connaître et qu'on quitte à laisser souffler 2 secondes nos zones érogènes, laisse-moi juste mettre les choses au clair avec Leïla et on voit où tout cela nous mène. Ceci étant, je ne vais pas vous saouler plus longtemps avec le déclin de ma santé mentale puisque ce vendredi 28 avril, c'est aussi la date anniversaire de la mort du roi Artaban IV à la fameuse bataille d'Omyrzdagan dans la Creuse. Alors,
tu vas faire tout l'éphéméride là.
Sans vouloir jeter au visage de quiconque l'étendue d'une érudition qui ferait passer Albert Algou pour Nagui, je rappellerai simplement.
Ah la claque.
Je rappellerai simplement que c'est à Artaban qu'on doit l'expression fier comme Artaban, ce qui historiquement est complètement inexact, mais qu'à cela ne tienne, on a les transitions qu'on mérite sur France Inter, parce que je vous remets en contexte. On est en 224, après Jésus-Christ, Artaban est un jeune premier de l'époque, 39 ans, 11 femmes, une centaine d'enfants, un kangou, et la grosse pêche à l'approche de la bataille d'Omyrzdagan, où il est donné à 37 contre 1 par les plus fins analystes de la dynastie des bookmakers. Alors... Ouais, pas terrible ça. Alors en fait, Artaban a réussi à fédérer plusieurs armées du pays autour de son projet de société qui à l'époque consiste grosso modo à dire voilà, je vais gagner et après voilà, enfin on verra bien. De toute façon, le premier qui bouge lui mange son cœur. Ça reste rudimentaire, on est en 224, hein. Il n'y a pas encore tout ce qui est Amnesty International, Internet, Small Talk et comment va madame et le boulot toujours content, etc. Non, on est en 224, donc on va à l'essentiel. Bref, juste avant d'aborder la bataille finale d'Omyrzdagan, Artaban a donné une fête somptueuse avec ses femmes, ses généraux et 2 personnes non identifiées par les historiens, mais qui avaient réussi à rentrer en se faisant passer pour des amis de longue date de la famille. Alors c'est un détail, mais vous verrez que ça n'a aucune importance pour la suite de cette parabole, puisqu'en fait, Artaban a fait construire sur 8 mètres un panneau où il y a écrit « Omyrzdagan 224, Artaban président », déjà sûr de sa victoire contre son adversaire, l'horrible et sanguinaire roi Ardashir, qui avec son slogan « La Perse Achéménide aux Perses Achéménides » a su parler aux Perses Achéménides, pour faire court, mais je pense qu'il assumait ce côté clivant, il avait déclaré à l'époque Je suis bien constant, conscient du côté perso acheminido centré de mon projet, mais de toute façon, le premier qui bouge, je lui mange son foie. À l'époque, on était à fond sur l'ablation des organes vitaux en cas de désaccord léger. Il n'y avait pas tout ce qui était peine alternative, concertation syndicale, émoticône, désolé, etc. Donc, alors, tout le monde se dit que c'est plié. Artaban se demande déjà ce qu'il va faire du château d'Ardeshir. Il dit, tiens, si je repeins tout en blanc, ça va augmenter l'impression d'espace et tout ça, non? Oui, mais alors crépi, acrylique, papier peint, enfin, que faire? Enfin, des trucs de vainqueur, finalement. Mais il arrive le jour J sur le champ de bataille un dimanche, hyper sûr de lui, et là qu'est-ce qu'il voit? Je vous le donne en mille. Alain Duhamel, qui était à l'époque déjà un jeune journaliste, mais déjà très au fait des enjeux politiques majeurs. Artaban lui dit, ah tiens Alain, quelle nouvelle, comment ça va? T'es venu pour ma victoire, ça va être bien, j'ai prévu des bulles pour après et tout. Et Duhamel lui dit, faites quand même attention Artaban, Ardeshir a rameuté plein de monde, il a un nouveau slogan qui fédère, ça dit la Perse achéménide pour tous au cas par cas. C'est plus long, mais ça prend au trip. Alors je rappelle qu'on est en 224, c'est les tout débuts des Spin Doctors, etc. Et c'est là qu'Artaban constate qu'en effet Ardeshir a ramené une armée vachement plus grande que prévu, mais fière comme Artaban, il s'avance quand même sur son vieux cheval métrosexuel et se fait défoncer comme une merde, laissant la population aux mains d'Ardeshir. Alors voilà, ça finit abrupt ma parabole, mais bon, elle n'est pas Paulo Coelho qui veut. Et alors donc, avant que les historiens qui nous écoutent débarquent dans le studio pour me punir à coups de tison, je dirais simplement qu'il faut jamais vendre la peau de l'ours Artaban. Allez, bonne émission.
France Inter, Nagui, la bande originale.
Ou l'art de faire passer des messages sans aller droit au but. La bande originale de Raphaël Haroche, on va parler évidemment à nouveau de ce recueil de nouvelles retourné à la mer, mais on a mis en musique quelques dates de votre vie, comme par exemple au moment où vous avez commencé à apprendre à jouer du piano. Nous vous avons demandé ce que vous écoutiez en 1980 et vous nous avez dit... Ashes to ash and fun to fuck it. We know major tongues are drunken. Strung out in heaven's high, hitting an all-time low. Évidemment, David Bowie, c'est forcément dans votre bande originale, c'est pas une posture, c'est pas parce que vous
non,
aviez joué
je
sur
pense
scène.
Que j'aurais mis que David Bowie si...
Ça peut être la BO de votre vie.
Ouais, oui, je sais qu'il y a que ça en fait. Enfin, il y a pas que ça, mais... Ce matin, par exemple, j'étais avant de venir, là, j'ai pris le piano, j'ai joué 2-3 chansons avec mes gosses, qui aiment bien, qui ça les fait marrer, des chansons de Hunky Dory, là, qui sont trop joyeuses, on dirait des petits airs de comédie musicale.
Et vous la jouez de façon ritournelle pour enfants?
Non, on la joue façon Broadway, façon hollywoodienne, quoi. Enfin, je sais pas.
Vous avez appris d'abord à jouer du piano, justement, avant la guitare, ce qui est pas une posture rock. On dit que le rock, c'est forcément la guitare. Est-ce que l'instrument a une importance dans la manière de composer une chanson? On n'écrit pas les mêmes chansons au piano et à la guitare?
Non, on n'écrit pas du tout pareil. C'est très différent.
C'est plus pop la guitare, c'est plus mélodieux le piano. Il y a une différence aussi marquée ou pas?
Moi, ouais, je sais pas. C'est des moments. C'est des
moments. Comment vous seriez distingué alors?
Ce qui est agréable, c'est de changer, de sortir de son système de composition et des choses dont on a l'habitude. Si on fait toujours les 5 mêmes accords, machin, c'est chiant. Alors qu'on découvre, on dit tiens, il y a des 7e, il y a des gens qui ont inventé un accord de 7e, c'est incroyable, c'est presque du jazz. Et on commence
à se surprendre
un peu. Et à... Bon, après.
Vous étiez bon élève au piano?
Moi, j'adore le piano, je trouve ça magnifique, je trouve que c'est le plus bel instrument du monde, j'adore ça. Ça me fascine. Mais après, c'est beaucoup plus dur techniquement que la guitare, je pense. C'est beaucoup plus. Je suis un bien meilleur guitariste que pianiste. Pianiste, je me débrouille, quoi. Je peux faire illusion. Mais je suis un imposteur au piano, alors que guitare, je sais vraiment jouer.
Et vous avez suivi des cursus de conservatoire?
Non, pas du tout. Je sais à peine lire la musique.
Vous avez appris comment alors?
Bah, j'ai appris un peu comme ça au conservatoire, mais j'étais pas. Assidu, et puis j'étais pas bon, et puis j'ai pas assez travaillé. Moi, ce que j'avais envie, c'était quand même de chanter des chansons de populaires. J'avais pas envie de musique classique quand j'étais petit. C'est maintenant que j'ai envie de musique classique.
Et à quel moment on va sortir du classique, à quel moment les ordinateurs ont joué un rôle dans vos compositions? Quand l'ordi est devenu un instrument et pas uniquement un outil
Ça a toujours été un outil, ça n'a pas été un instrument pour moi. C'est à partir d'un certain âge, l'ordinateur est devenu beaucoup moins cher que tous les anciens magnéto qui existaient, qui étaient beaucoup plus.
Donc c'est que pour enregistrer, c'est pas pour structurer.
Non, pour moi c'est un magnétophone. Après je l'ai utilisé, j'ai fait un disque qui s'appelait Super Walter qui était très ordinateur, mais parce que je travaillais avec un mec d'un groupe qui s'appelle Deux Choses, qui est vraiment de cette identité-là. C'est un geek, quoi. C'est un mec technologique. pourrait lancer des fusées dans l'espace. Il
arriverait, lui. En 1999, c'est la sortie de votre première...
C'est la chaîne de vélo, j'arrive pas à la changer, quoi. J'en regarde ça pendant des heures. Qu'est-ce que c'est que ce truc?
On ne pas savoir tout faire, jouer à la guitare et changer les chaînes.
C'est pourtant tellement important pour un papa de savoir changer la chaîne du vélo.
Ouais,
c'est
bien sûr.
Super urgent.
Ouais, tout est important.
Un papa devient un héros quand il répare la
chaîne. Ma maman sait faire aussi, parfois.
Oui, non, mais c'est... Je parlais de Raphaël. Excuse-moi. Là, je vois un papa.
Et Nagui est un papa, pas une maman.
C'est vrai.
Un papa, une maman. Tu as raison, Leïla, de nous ramener à ses valeurs.
En 1999, c'est le premier album de Raphaël, mais il écoutait... Stevie Ray Vaughan.
Ouais, ça indique que j'ai toujours un petit décalage de 12 ans entre parce que je pense que Stevie Ray Vaughan est mort en 87 ou en 89, quelque chose comme
la
ça.
La force de la musique, c'est qu'elle est présente d'une manière totalement intemporelle.
C'est vrai. Mais quand même, c'était pas du tout les... Et après, 10 ans plus tard, j'écoutais Elliott Smith.
Alors on va y arriver.
10 ans après la mort, je commence à m'intéresser. Mais
est-ce que vous vous souvenez de votre de ce premier
rendez-vous? C'est pour bientôt, quoi.
Bientôt, ouais. Je vais peut-être comprendre un jour Amy Winehouse. Je commence à
est-ce
mon
que vous vous souvenez de ce premier rendez-vous pour signer un contrat dans une maison de disques, c'est-à-dire avoir ce statut d'artiste? Vous vous souvenez presque du temps qu'il faisait, de comment vous étiez habillé, de où c'était?
Pas du tout. Mais je me souviens d'où c'était, mais pas du temps qu'il faisait ni comment j'étais habillé. Mais c'était moi, quand j'avais 9 ans ou 10 ans, ce que je voulais faire dans la vie, c'était être chanteur. Donc c'est sûr que c'était la réalisation d'un rêve de pouvoir rentrer dans une maison de disques. En plus, à l'époque, il y avait beaucoup moins d'autoproduction. C'était quand même en 99, donc il y a pas mal de temps. Donc c'était ça paraissait un accès à quelque chose de... Enfin, je pense que c'était c'était extraordinaire. J'étais très heureux, bien sûr.
Il y a toujours Caroline Mancé.
C'était chez EMI. Oui, Caroline Mancé, bien sûr.
Et qui vous manage, qui vous conseille, qui
m'engueule,
vous encadre,
qui m'engueule très quotidiennement.
C'est la fille de Gérard Mancé, mais c'est bien plus que ça pour vous, même s'il y a des vrais liens aussi avec Gérard Mancé entre votre manière de travailler, votre écriture et l'environnement dans lequel vous évoluez. Mais quel est son rôle artistiquement auprès de vous?
Alors, artistiquement, c'est comme un ami très très proche. Donc on parle de toutes les choses du quotidien, de est-ce que cette photo c'est mieux que telle autre photo, je sais pas quoi. Après, sur l'aspect chanson, production et musicale, elle est là quotidiennement, mais par exemple là, j'ai fait un disque qui sort au mois de septembre, et vraiment elle s'occupe pas ni du choix des chansons, ni de la réalisation, ni du studio. Après voilà, elle est là pour m'encourager essentiellement.
Vous l'avez fait lire Retourner à la mer?
Oui, bien sûr, je l'ai fait lire. Ouais.
Avant que ça sorte, pour avoir son avis aussi?
Ouais, non, je fais lire une fois que c'était déjà
en route,
peut-être un mois avant que ça sorte, quelque chose comme ça, parce que c'est bien aussi de pas
cumuler trop d'avis.
Ouais, peut-être. Ouais. J'avais un éditeur, j'avais vraiment envie de m'en remettre. C'est comme là le prochain disque, il est réalisé par Gaëtan Roussel et Julien Delfaux. J'avais envie que ce soit que eux deux qui soient les interlocuteurs, parce que sinon on ne sait plus quoi.
Gaëtan Roussel qui lui aussi a écrit un recueil que nous recevrons.
Au revoir.
Ouais, ouais. Que nous recevrons dans une dizaine de jours. En 2005, c'est le carton évidemment avec Caravane, mais à ce moment-là, Raphaël écoute Elliott Smith. Quand on est chanteur et surtout auteur-compositeur, à quel point ce que l'on écoute, on peut se protéger ou être hermétique et ne pas être trop influencé dans ce que l'on écrit?
Je sais pas. Après, il faut...
Il y a forcément
on
des
forcément
artistes qui
détaillent. Influencé tout le temps, partout. Voilà, il y avait une phrase de Bowie qui était pas mal, qui disait « c'est pas ce qui est important, c'est pas ce que je vole, c'est ce que j'en fais ». Je sais pas.
Pas grave s'il y a quelques accords ou quelques nuances qui se retrouvent dans certaines de...
Moi, mon éthique, c'est quand on pense pas à partir de quelque chose, ça pose pas de problème. Après, des fois, quand j'écoute certaines de mes chansons, je me dis oui, c'est vrai que cette note ressemble à un truc auquel j'avais pas pensé. Après, si c'est totalement inconscient ou même des choses que parfois qu'on connaît pas,
il
y a tellement de chansons qui se ressemblent que c'est pas si important. Après, si dans une démarche, je me dis je voudrais faire un truc qui ressemble à ça, C'est plus douteux, ça m'intéresse moins, quoi. C'est pas...
2005, Triomphe de Caravane, il faut quand même qu'on écoute Caravane un peu.
Est-ce que rien ne peut arriver? Cette caravane, mais nous partons, allez, viens.
Il y a un gouffre entre l'écriture des textes d'une chanson et le point de départ d'une nouvelle, à part évidemment le temps que l'on peut prendre et les détails dans lesquels on peut rentrer.
Ouais, j'ai l'impression que c'est pas tout à fait les mêmes. Je sais pas. C'est assez compliqué parce que je découvre les nouvelles. Alors pour l'instant tout est frais, ça m'éclate complètement. Donc tous les matins j'écris et ça me plaît beaucoup. Alors que la musique, il y a des moments où j'étais plus fatigué. Alors maintenant ça m'a aidé à faire de la musique. Donc tout devient un peu plus simple. Je pense que c'est des moments, quoi. Après, quand on est auteur de chansons, peut-être qu'on a quelque chose qu'on peut faire et que les autres écrivains peuvent moins bien faire, on a accès à un truc poétique, peut-être, parce que, comment, la chanson, c'est la manière aujourd'hui, c'est l'endroit où on peut faire de la poésie aujourd'hui, comme la musique de film, c'est un endroit où on peut faire presque de la musique classique, donc c'est assez intéressant. Mais après, moi, je pense pas que je serais capable d'écrire un roman aujourd'hui, j'essaye, mais je me heurte à certaines complications de... Voilà, c'est comme un scénario de film, il faut vraiment construire des personnages, il faut avoir des fiches, ça nécessite une constance de plusieurs mois, plusieurs années sur un même sujet, alors qu'une nouvelle, on peut l'écrire en 3 jours ou même une journée au café, comme ça, c'est sympa. Enfin, c'est pas sympa, et puis surtout, je vois pas de... C'est pas du tout ta question, mais je vois pas de hiérarchie entre le roman et les nouvelles.
Je parle pas de hiérarchie, ouais. Non.
Peut-être j'aime mieux les nouvelles que les romans encore.
Est-ce que c'est un confort déjà de pouvoir aller sur 4-5 pages de nouvelles, ou 2 pages d'ailleurs, alors que la chanson, il y a une contrainte, il y a une structure, il y a des refrains, il y a des couplets, peut-être qu'il y a quelque chose de plus...
Ouais, voilà. C'est pas la même économie. Et puis, j'ai l'impression que la chanson, il y a un moment donné où quand on commence à se mettre sur un piano et à faire l'andouille comme ça, c'est extrêmement libérateur, on se sent vraiment comme un enfant et c'est très réjouissant et marrant, quoi. La nouvelle, par contre... Il y a quelque chose de... Mais par contre, en chanson, dans ma vision de la chanson, j'aime bien que les choses soient évocatrices, mais qu'elles soient pas trop narratives. Par exemple, si c'est une chanson où j'étais là, j'ai fait ça, puis ensuite je suis parti, ou des chansons à chute, comme ça, on peut les écouter une fois, mais pas deux ou pas trois. Donc je trouve que c'est des...
Alors que dans les nouvelles, on peut rentrer dans des
dans
détails,
les nouvelles, bien sûr,
dans des
c'est
sensations
narratives, voilà. Beaucoup plus. Et puis il y a une possibilité de variation focale qui est beaucoup plus forte dans une chanson. C'est toujours un peu mon courant de pensée. Moi, j'étais malheureux. Moi, personne ne m'aimait ce jour-là. Il pleuvait. J'étais machin. Ce truc d'auto-apitoiement permanent.
Ne vous moquez pas trop de vous, parce que
j'aurais
qu'un album arrive en septembre.
Non,
mais c'est parce que je...
C'est plus la place du jeu, la chanson, alors que nouvelle ou la littérature vous permet de vous transporter ailleurs, dans la tête de quelqu'un d'autre.
Ouais, bien sûr. Et puis ça rend la vie... Moi, j'adore aussi ce truc d'écriture, c'est que on a une... C'est comme les comédiens, quoi. Les comédiens, ils observent tout le temps les autres, chaque geste, la manière dont on, je sais pas, dont on lève un stylo, je sais pas quoi, dont on boit un thé, on peut... finalement passer une heure dessus à la regarder, et c'est fascinant, quoi. Je ne sais pas pourquoi, et on peut être bouleversé par quelque chose qui pourrait paraître anodin. Tout devient assez miraculeux et éclatant comme ça, et amusant.
Raphaël est notre invité, c'est un autre Raphaël, mais qui on a demandé de venir, Raphaël Panza. Merci Raphaël de venir à ce micro. Vous êtes l'auteur de Rock et littérature, là où le rock rencontre les mots, ce que l'on a évoqué tout à l'heure avec Bob Dylan et la Beat Generation. Il y a un lien toujours omniprésent entre le rock et la littérature.
Toujours, en tout cas à partir de Bob Dylan, je pense. Mais c'est un lien un peu d'admiration réciproque. Il y a des interférences qui, de cette admiration, vont se créer. Alors, ça peut aller d'un nom de scène, comme Dylan, qui utilise Dylan Thomas, enfin, qui s'inspire, qui utilise pour s'appeler sur scène.
À la place de Zimmerman.
À la place de Robert Zimmerman. Mm. Les Doors, qui utilisent leur nom.
Les Portes de la Perception.
Les Portes de la Perception. Après, ça peut aller jusqu'à une chanson, ou alors carrément jusqu'à un album concept, enfin, un concept album.
Et puis, un rapport à l'écriture aussi. Il n'y a pas que des allusions à des pseudonymes ou à des titres d'albums.
Tout à fait. Il y a une intertextualité.
Voilà.
Il y a vraiment une intertextualité. On va se servir de la musique rock comme un moteur narratif, en fait, Il y a un roman de John King qui s'appelle Human Punk et il va utiliser un morceau des Clash qui s'appelle White Man in Hammersmith's Palette. En fait, et tout le morceau va se retrouver à plusieurs périodes de la vie du protagoniste. Et ça fait partie des moyens par lesquels on dissémine le rock dans la littérature.
Alors si le rock et littérature sont aussi proches, comment expliquez-vous la réaction de certaines personnes au prix Nobel de littérature qu'a reçu Bob Dylan ? Il y a un côté...
Il y a un côté snobisme. Enfin, je crois, parce que... Alors, il y a la posture, oui, d'autres auteurs peut-être l'auraient mérité. Alors,
chaque année, c'est comme ça.
Chaque année, je crois que c'est comme ça. Mm-hmm. Il y a le côté aussi, il y a l'argument et Cohen alors. Donc, ok.
Et Leonard Cohen, oui.
Leonard Cohen, ouais. Je veux dire, ouais. Ouais.
Et David Bowie alors.
Et David Bowie alors, enfin voilà. Ça a vraiment, je pense, a mis un coup de pied dans la fourmilière. Et moi, je dis tant mieux. Moi, je dis tant mieux, parce que vraiment, Dylan a... décloisonner les choses avec, enfin moi je crois avec Highway 61, l'album où il y a like Rolling Stone et d'autres, il a vraiment ouvert des pistes. Et c'est l'argument que je trouve, enfin ça peut paraître un peu comme si j'étais un fan du prix Nobel de dire ça, mais il a ouvert quelque chose, quoi. Il a ouvert une voie. Je crois que tous les plus grands ont rendu hommage à Bob Dylan dans ce sens-là.
Et alors, il y a l'écriture de Bob Dylan, il y a aussi des auteurs, et on en a parlé avec il y a deux jours,
avec
Yves Bigot, il y a aussi des auteurs qui sont devenus paroliers de chansons.
Tout à fait. On a Houellebecq, par exemple, qui est devenu auteur de
oui,
des chansons.
Il y a Philippe Jean pour
Philippe
Jean
avec Stéphane Nicher. Ouais. Je pense aussi à William Burroughs, qui est un des confrères de Jack Kerouac à l'époque de la Beat Generation, qui a écrit des textes, un texte notamment pour Kurt Cobain, qui s'appelle The Priest They Call Him. C'est un espèce de machin qui dure 10 minutes, assez chaotique, assez barré. Il a aussi écrit des textes pour Patti Smith, enfin avec Patti Smith. Donc oui, il y a une vraie
interférence,
une vraie porosité, quoi. Clairement. Ouais.
Vous a fait quoi d'ailleurs, Raphaël, quand vous avez appris que Dylan avait le prix Nobel de littérature ?
Moi, j'étais très content. Je suis très heureux.
Avec et je crois que Patti Smith d'ailleurs c'est elle qui est allée rendre hommage. Elle a eu un énorme trou de mémoire quand elle a dû chanter. Je sais pas, visiblement c'était une émotion qui était envahissante.
Ou le manque de sommeil.
Ou que est-ce que c'est le rock français est aussi mêlé à la littérature que le rock anglo-saxon.
On le voit avec Noir Désir qui a un peu la référence, on va dire le maître étalon, mais il y a aussi Pigalle, enfin je sais pas si vous voyez ce groupe. Absolument, dans la salle du bar tabac de la rue des Martyrs. On a Arrange dans les années 70, on a Mancé bien sûr.
Raphaël Laroche
bien sûr. Puis là
plus non mais c'est pardon Philippe Jean, c'est miraculeux, ces chansons elles sont splendides. Ce Déjeuner en paix par exemple, c'est vraiment splendide, c'est comme une petite nouvelle parfaite, merveilleuse, je trouve.
Mais il y a quoi, est-ce que c'est chic pour un musicien d'avoir un auteur, un romancier qui donne
non,
un
mais
texte.
Il fait des chansons formidables, Philippe Jean, quoi.
Oui, non, mais j'entends, mais dans le regard, puisque tout n'est que regard, critique, marketing et posture, est-ce que c'est une posture rock pour un auteur que d'écrire une chanson? Est-ce que c'est une posture intellectuelle pour un chanteur que d'avoir un romancier?
Vachement compliqué comme question.
Non, c'est pas compliqué.
on essaie de faire des bonnes chansons, quoi, c'est tout. Après, il y a des romanciers qui peuvent faire des beaux textes et puis d'autres qui doivent pas. Enfin, c'est un mode d'expression un peu différent. Je crois pas qu'il y ait d'histoire d'être chic ou pas chic. Je crois que.
On aime cloisonner, on aime considérer qu'on fait une seule discipline et pas une autre.
Je sais pas, mais ce Philippe Jean, en tout cas, c'est un exemple vraiment de ce Déjeuner en paix. Je trouve que c'est une perfection, quoi. De chansons comme une petite nouvelle.
Et là, c'est narratif, contrairement aux textes à vous, par exemple. Ouais. Donc il y a plusieurs courants aussi.
Il n'y a pas de chute. C'est narratif, c'est une photo. C'est comme.
Un instantané. Ouais.
Je trouve ça magnifique.
Mais pour rebondir sur ce que vous disiez, la crédibilité, je pense pas, comme disait Raphaël, enfin, peu importe finalement qu'on fasse des nouvelles, qu'on fasse de la poésie ou quoi, je pense qu'à un moment donné dans la vie d'un musicien, on a envie peut-être de faire autre chose, c'est d'aller explorer de nouvelles manières de s'exprimer. Et donc, forcément, si on a écrit des chansons, on a envie peut-être d'aller plus loin. Et du coup, de raconter une histoire, peut-être sous forme de portrait, sous forme de nouvelle.
Oui, on peut se poser la question, peut-être que Raphaël, vous êtes posé la question de la légitimité. Est-ce que vous avez dit, est-ce que j'y vais pas? Vous êtes déjà posé la question du patronyme. Est-ce que je reste Raphaël ou est-ce que je rajoute un nom de famille?
Moi, c'est parce que je voulais pas faire un livre de chanteur. Donc, l'idée de pas mettre, de changer de nom, d'être dans une collection littéraire, de pas dire je vais parler de moi, de ma vie ou je sais pas quoi,
c'est pas le cas du tout. C'est une autobiographie, ouais, c'est clair.
Très très loin de là, c'est ça ce qui m'intéressait. Ensuite, la légitimité, je trouve que je me pose pas vraiment cette question. C'est, il faut dire, quand on a quelque chose à raconter, peu importe qu'on ne sache pas bien écrire, ou par exemple un musicien qui connaît aucune règle de la musique, il peut m'intéresser tout autant que quelqu'un qui connaîtrait très bien la musique. C'est juste ce qu'il a à dire et ce qu'il a exprimé, quoi. C'est, ça paraît un peu évident, mais je crois qu'il s'agit que de ça, quoi.
Est-ce que
qu'est-ce qu'on a à raconter? Si on a un truc bien à raconter, sûr. On le fait. Si on n'a rien à raconter, ouais. Bah, il faut faire autre chose, quoi. Oui.
Est-ce que ce pont entre rock et littérature, c'est une période donnée, c'est quelque chose qui est à cheval entre ce 20e et ce 21e siècle, est-ce que ça a continué ou est-ce que,
je crois
est-ce que
ça
la
continue.
Musique
ouais. Je crois que ça continue, ben, j'allais en parler tout à l'heure, mais il y a ce groupe français que personnellement j'aime beaucoup qui s'appelle Feu Chatterton, qui pour moi vraiment fait ce pont entre rock et littérature. Maintenant, effectivement, il y a eu une espèce d'effervescence entre les années 60 et les années 80, avec Pink Floyd qui reprend Orwell, avec Dylan qui s'inspire de la Beat Generation, avec Patti Smith, avec Tom Waits aussi, qui a repris petit conte folklorique allemand, Le Franc-Tireur. Mais je crois que ça continue, enfin, il y a toujours une activité, il y a toujours des ponts continus d'exister.
Il y a Gael Faye, par exemple, pour la nouvelle génération aussi, qui est un chanteur et qui a écrit un super livre. Votre livre est publié chez Canton Blanc, c'est ça?
Camion Blanc,
excusez-moi.
Chez Camion Blanc.
Pardon. Camion Blanc, Raphaël Panza, ça s'appelle Rock et Littérature, là où le rock rencontre les mots. Merci d'être venu à ce micro. Daniel Morin, on voit bien que la littérature et la chanson, comme le rock, sont bien plus proches que certains critiques peuvent le penser. L'un a vraiment influencé l'autre et vice-versa. Et Raphaël Laroche, heureusement, on est la preuve vivante. Et c'est bien d'ailleurs de voir des...
Le déglingo. Oh, el loco. Il retente sa chance. Il insiste. Il veut se reprendre une fessée, le milliardaire Sarah. Hein. Écoutez, monsieur Guy, vous avez déjà tenté le coup avant-hier avec Yves Bigot en essayant de défendre, sans brio, il faut le dire, les liens entre la chanson et le rock anglo-saxon, et là vous remettez le couvert avec la littérature. Puisque visiblement votre problème de sourdité ne s'arrange pas, on va recommencer. Alors tenez un exemple, ça.
Mais t'es pas là,
eh, ça, c'est du Proust, ça peut-être. Allez, on change, et ça.
Il est où le bonheur, il est où.
C'est du Victor Hugo, peut-être, et ça.
Sur ma route, oui.
Bon, là, je reconnais, là, c'est une exception. On reconnaît clairement l'hommage à Sur la route de Kerouac,
oui,
ou encore au chef-d'œuvre Conseil route de Bison Futé. Mais bon, à part Black M, hein, non? Bon, ok, j'ai compris. À votre regard proche de celui du poisson troc-cuit, Nagui, pas grand-chose à attendre de vous. Je vais en parler avec un spécialiste, un grand spécialiste, un rock critique, Jean-Philippe Manœuvre. Jean-Philippe, bonjour.
Salut, Danny. How are you, my friend?
Tout doux même. Merci. Jean-Philippe, vous pensez qu'il y a un rapport entre la littérature et le rock?
Oh non, mais fuck, Danny. Qu'est-ce qu'il a dit, cette énorme connerie?
Nagui.
Oh, Nagui, mais putain, il y avait que lui pour dire un bullshit pareil. Non, mais quel quiche, ce mec.
Non, mais il y a un rapport.
Mais non, none whatsoever.
Whatsoever.
Mais ouais, la littérature c'est de la branlette, mec. Le rock c'est la life, c'est du sang, de la sueur, de la bière, du pipi et des larmes. Le rock ça te traverse comme une flèche. La littérature c'est un truc de bobo qui se la raconte parce qu'il a été longtemps à l'école. Genre, jusqu'en sixième.
Wow. Grande école. Ok, ben merci Jean-Philippe. Vous voyez, monsieur Guy, les arguments de mon spécialiste sont imparables. Il n'y a rien en commun entre le rock et la littérature. Une fois de plus, j'en suis déçu et désolé, mais vous avez dit...
N'importe quoi. Merci Daniel Morin, merci Albert.
La bande originale, Nagui, sur France Inter.
Raphaël Laroche est notre invité. Il signe Nouvelle, c'est chez Gallimard. Cette écriture d'ailleurs s'est passée sur une période concentrée, puisque tout à l'heure vous avez dit ça a été dans un jaillissement. Vous êtes mis à un bureau pour écrire, et si oui d'ailleurs, dans quelles conditions?
Ça s'est passé assez concentré, pendant quelques mois peut-être, 5-6 mois, et j'avais plus de bureau donc j'écrivais au milieu de la famille, des gosses comme ça, parfois il y avait
papier crayon ou ordinateur?
Non, ordinateur, moi j'arrive même pas à relire quand je fais un autographe par exemple. J'écris très mal, je suis gaucher, je repasse sur ce que j'écris, ça bave, c'est dégueulasse, c'est comme la chaîne de vélo, c'est ignoble, donc je peux pas écrire à la main, j'écris que à la machine.
Et vous êtes un gaucher contrarié à la guitare.
Et même à l'ordinateur, c'est dégueulasse. C'est
dur. Ah oui, même à l'ordinateur. Ouais, vous relisez pas l'ordinateur. Ouais,
non. Je relis. Mais
est-ce que l'ordre
Non, je suis droitier à la guitare.
Oui, c'est ce que je dis. Oui. Ouais. J'ai appelé ça gaucher contrarié, ouais. Pardon, mais enfin droitier à la guitare, ouais. Et gaucher et à l'écriture. Non, l'ordre des nouvelles était préétabli ou
non, c'est mon éditeur. Un peu. Moi, j'avais peut-être envie de commencer par une nouvelle plus émouvante, et lui, il avait l'idée un peu de monter les marches les unes après les autres, donc je trouvais ça bien aussi.
En tout cas, ça fonctionne.
Ouais, c'est bien.
Ouais, ça fonctionne. On va quand même écouter du Raphaël, parce qu'on aime Raphaël, le chanteur aussi. Moi, je vois.
Table, ça.
Tu peux faire ça? Sur la map monde à Val d'Oiseau, on se dit qu'on peut gagner gros. Ok, j'enlève, ok.
Tu préfères pas, Ne partons pas fâchés, moi j'aime bien Ne partons pas fâchés. T'as pas cette chanson?
Oh, bah on va se caler sur Ne partons pas fâchés. Bien sûr qu'on a perdu la guerre, bien sûr que je le reconnais, bien sûr la vie nous met le compte, bien sûr la vie si tu non plus, bien sûr que j'aimerais bien te montrer. Ailleurs on ferait pas que fuir, bien sûr j'ai pas les moyens, et quand les poches sont vides alors allons rire. Ne partons pas fâchés, ça n'en vaut pas la peine, bien sûr que les montagnes. Chez Gallimard, retourné à la mer, notre invité Raphaël Laroche est avec nous jusqu'à midi. Il est bienvenu avec Leïla Kadoboudadi, Ia Maurice, Albert Algou, Daniel, et notre invité Raphaël Laroche. Qui signe ce très bon recueil de nouvelles chez Gallimard. Tout à l'heure, vous avez expliqué que vous travaillez sur ordinateur, que vous écriviez dans une période donnée, c'est-à-dire vous êtes mis entre guillemets au travail après avoir pris peut-être des annotations sur quelques carnets de voyage. Justement, les voyages sont très présents dans le livre aussi. Il y a un regard particulier, et je reviens sur la mer puisqu'elle est dans le titre, sur l'eau. Vous en avez peur de l'eau ou c'est
Moi, je suis un amoureux de la mer.
Pourquoi il y a tant d'accidents, de morts ou de peurs? Les orques aussi, je pense à cet avion qui s'écrase dans la mer. Elle n'est pas toujours porteuse de bonnes nouvelles.
Non, peut-être pas, mais j'aime bien. Je ne suis pas un bon marin, mais j'adore ça. Je fais beaucoup de bateaux dès que je peux. J'aime beaucoup le bateau à voile, même à moteur d'ailleurs. J'aime bien être.
Sur l'eau.
Comme ça, sur l'eau. J'aime bien l'idée de cet endroit qui est. Qui n'a pas bougé depuis la création, quoi, depuis les origines. C'est assez étrange. Vous prenez un bateau, vous êtes
un petit peu plus pourri qu'avant, quoi.
Ouais, mais encore, on le voit assez peu. Hein, c'est vrai, bien sûr. Mais
elle est pourrie au fond, pas toujours.
Mais on, je sais pas si vous partez, vous faites 20 km ou 30 km des côtes, et ça y est, vous êtes dans un monde totalement sauvage. Où la présence de l'homme est totalement. Alors après, on peut le voir à la fois comme quelque chose de merveilleux, à la fois comme quelque chose de totalement hostile. C'est-à-dire que des chances de survie.
Elle est plus forte que
en mer, c'est compliqué. Ouais.
Alors justement, chances de survie, il y a aussi
surtout qu'on n'y connaît rien en voile.
La mort.
C'est quoi ce nœud, bordel?
La mort est présente. L'accompagnement aussi vers la mort. Il y a des idées qui sont.
Ça donne envie de le lire, ce livre.
Ça donne
envie de le relire même.
Mais c'est fort pour Sanagui. Hein.
ça donne envie de le lire parce que il y a des. Parce que quand il y a les deux potes qui disent enfonce-moi. La tête sous l'eau. Ou
ah oui. Non, comment...
Les acacias, ça.
Oui, les acacias.
Pardon, oui, d'accord. Non, parce que j'ai vu votre regard avec. Ah non, c'est un peu une demande de.
C'est la nouvelle où il y a Albert.
Ah oui, Albert, exactement. C'est deux petits vieux dans un home pour petits vieux comme ça qui vont.
Les vieux blancs.
Voilà, ils vont voler du pâté, des bons becs au supermarché, passer tout ce qui leur reste la journée comme ça. Et comme c'est le désespoir d'être. Comme ça, sans dents, minuscules, dans une maison de retraite, et ils se font chier, ils peuvent même plus. Ça n'a plus rien qui marche, quoi. Et donc, il y en a un qui demande à l'autre d'aller le tuer, quoi. Et ils ont vu une espèce de.
Alors, moi, j'ai vu justement l'idée d'aider quelqu'un à mourir s'il le souhaitait, vu l'état dans lequel il ne voulait pas finir.
Ouais, mais c'est
peut-être une interprétation.
Bien sûr que c'est ça.
D'accord, ok.
Non, non, c'est vrai, mais c'est un
vu
peu.
Vu le regard
c'est...
que vous m'avez lancé, je me suis dit, oula.
Mais parce que le ton de la nouvelle est plutôt marrant d'après.
Oui, absolument.
C'est plutôt drôle.
Non, 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 mais on l'a dit.
C'est deux vieux qui veulent se suicider dans une flaque d'eau, en gros. C'est un peu ça. C'est ça que je trouve marrant. Si on le résumait en.
Ils sont désespérés, vraiment, vraiment désespérés.
C'est l'affaire Boulin, quoi.
Et puis, alors, on n'a pas évoqué, il faut en parler quand même, cette nouvelle d'un homme qui va tromper sa femme avec la plus belle fille du monde. Mais elle a quand même un défaut assez particulier, cette plus belle fille du monde, c'est qu'il découvre qu'elle est nazie.
Ouais.
Ok. On est sans tomber dans la psychanalyse, oui, on peut en parler.
c'est comme une blague, quoi. Ce qui me faisait marrer, c'était ce qu'on est capable d'accepter pour tirer un coup ou par amour, quoi, ou les deux. Mais c'est ça qui me faisait marrer. C'est un type qui.
Et ça vient contraster avec un autre personnage féminin qui intervient au début dans les deux, trois premières nouvelles.
J'ai cru que tu parlais des élections.
Non, qui a le corps lacéré.
Avant d'aller.
Et pourtant, il est là, penser. Il a à la fois une violence envers elle, mais un amour, une envie de protection. Qui est très touchante. Donc,
alors lui, il est vigile. Ouais, ou garde du corps même dans un concert. Et il aime pas le chanteur, ce qui fait que lorsque le chanteur, oui. Là je me demande si c'est pas une histoire, il aime pas le chanteur. Et lorsque le chanteur fait son fameux slow dans la foule, le mec de sécu, on se dit normalement le mec de sécu est là pour le protéger. Non, il lui donne un énorme coup de coude parce qu'il aime pas le chanteur.
C'est du vécu, ou pas ?
Ouais, c'est ce non, que c'est, ça. Ouais.
C'est bien sûr que c'est du vécu, pas le coup de coude, mais j'ai fait des centaines de concerts et on voit, il y a un truc qui s'appelle le crash barrière, qui est le no man's land qui fait un mètre, qui sépare le public de la scène. Mmh. Et il y a des mecs qui ont des bouchons dans les oreilles parce qu'ils n'ont pas envie, donc on leur casse les oreilles toute la journée.
Et puis ils sont super proches des enceintes,
et puis c'est leur boulot. Et donc ils sont dans une autre temporalité que les gens du concert. Que les gens sur la scène, et ça m'a toujours interrogé.
C'est, en plus, ils sont dos.
Ils sont avec, est-ce qu'ils sont dos. Contre.
Non, mais ils sont dos à la scène. Ils sont dos à la scène, donc ils voient même pas le spectacle. Ils regardent le public, ils surveillent le public.
Ouais, après, il y en a plein que j'ai rencontrés, que j'ai connus, qui sont adorables, que je. Non, je... mais.
C'est ce décalage-là.
C'est des gens qui sont comme ça. C'est vraiment une autre temporalité, c'est vachement surprenant.
Et comme vous le dites dans la nouvelle, il n'y a aucune connexion entre l'artiste et sa sécurité de concert, puisqu'après le gars il va faire sécurité dans d'autres concerts, il s'en fout, il ne le connaît pas, il part en tournée. Il l'aime pas, ouais, c'est ça, il y a une distance totalement hermétique entre les deux. Non, je vous rassure, il y a quelques noirceurs à la Raphaël, mais il y a aussi beaucoup d'humour à la Roche. Ça s'appelle Retourner à la mer, cette nouvelle chez Gallimard. Que nous avons énormément apprécié et qu'on vous encourage à lire. Appréciation également sans faille pour Daniel Morin, sans humeur.
On est vendredi.
Ouais, semaine particulière.
Formidable. Alors on le sait, le lieu de travail est l'endroit le plus propice pour rencontrer l'âme sœur. Oui, évidemment, selon une récente étude de l'Institut YouGov, un Français sur six confesse avoir déjà envoyé un sexto à un ou une collègue. Le sexto pour. Nos auditeurs âgés de plus de 90 ans, ça veut dire un petit texto coquin. Un message à base d'allusions plus ou moins discrètes à caractère fripon. Alors pour nos auditeurs âgés de moins de 20 ans, fripon...
Ça veut dire quoi, fripon ?
Fripon, ça veut dire hoche du cul. Bon alors, bien sûr, il y a plusieurs catégories, plusieurs styles de sexto. Voyons cela ensemble. Il y a le style concon.
Tu es si jolie, je veux te faire des bisous.
Il y a le style observateur.
Ma parole, t'es trop bonne.
Il y a le style jeu de piste.
Je suis tout nu dans la cave, sauras-tu me retrouver ?
Il y a le style de la part d'un autre.
T'as le bonjour de mon zizi.
N'oublions pas le style élu Europe Écologie Les Verts, le style Denis Baupin, qui peut envoyer des centaines de sextos à la même personne pendant des mois à base de...
J'ai envie de te mordiller la nuque.
Là, on est dans la catégorie qu'on nomme en jargon technique catégorie méga relou. Alors, à part le sexto très prisé, il y a aussi le lieu de fantasme dans cette étude. Le lieu le plus excitant, apparemment, c'est le bureau du patron. Une info que Nagui a relevée immédiatement. Ce matin, le troubadour d'Alexandrie a fait installer un lit avec matelas à remous, menottes intégrées à la tête de lit et miroir au plafond. Ah oui. À noter que les hommes se disent tentés par la salle de réunion et les femmes par l'ascenseur. Là, on voit bien que celles qui ont répondu à cette enquête n'ont jamais pris l'ascenseur Radio France. Mais jamais. Dans nos ascenseurs, si tu éternues trop fort, la cabine se bloque. Je pense que si tu entames une petite saillie, les néons du plafond explosent, l'alarme se met en route, la cabine décroche, tu te retrouves direct au sous-sol avec les genoux dans la bouche. Non, ici, l'ascenseur, je vous assure, c'est pas une bonne idée du tout. Bon, allez, on sort du lieu de travail pour évoquer ce qui s'est passé mardi dernier. C'était dans le bois de Meudon, à côté de Paris. La police a arrêté un homme qui se promenait accompagné d'une jeune fille. Pourquoi a-t-il été arrêté, me demandait Nagui, qui rajoutait « On a quand même le droit de se promener en forêt avec une amie, moi ça m'arrive souvent, merde à la fin !» Eh bien parce que la jeune femme promenait le monsieur en laisse. C'est véridique, hein. Là, c'est Richard Larnac qui est intervenu et qui m'a dit « On a quand même le droit de se faire promener en laisse, merde ou pas ? Moi ça m'arrive souvent, merde à la fin !» Oui, ok, mais l'homme en question était promené en laisse, tout nu, avec une boule de cuir dans la bouche. Là encore, un membre de l'équipe est intervenu.
Et alors, on a quand même le droit de se... Mais oui, on a quand même le droit de se faire promener en laisse tout nu dans un bois avec une boule en cuir dans la bouche. Ça m'arrive tout le temps.
Comment ça, ça vous arrive tout le temps, mon père?
Non, tout le temps, j'exagère. Mais au moins une fois par semaine.
Sérieux?
Mais oui, sérieux. C'est très agréable. La nature, le goût du cuir, la liberté d'être nu, la contrainte de la laisser bien serrée... De la laisse, pardon. De la laisser la laisse bien serrée autour du cou.
Alors vous trouvez ça agréable d'être à poil dans un bois avec une boule de cuir dans la bouche, promenée en laisse par une jeune fille?
Par une fille?
Oui.
Une femelle?
Oui.
Oh oui, non, là c'est différent. Si c'est promené par une jeune fille, oh oui, effectivement, c'est immonde. Et la police a bien fait d'appréhender ce pervers et sa promeneuse dégueulasse.
Ouais, je me disais aussi. Merci mon père, bon week-end à lundi.
Merci David Morin, merci à vous.
La bande originale, Nagui, sur France Inter.
Retourner à la mer, c'est l'actualité de Raphaël Haroche. Le livre est publié chez Gallimard, recueil de nouvelles. Ça, c'est l'actualité brûlante. Mais l'avenir, est-ce que Raphaël, comédien, vous me l'aviez déjà dit, plus jamais ça, mais est-ce que, tout à l'heure, vous parliez de scénarii ou d'amis avec qui vous travaillez au cinéma. Est-ce que vous avez changé d'avis ou pas?
Moi, je ne sais pas jouer du tout. Vraiment, je suis le degré zéro de l'acteur, quoi. Même quand... Enfin bon, je suis très mauvais.
Mais en fait, vous dites que vous ne savez pas jouer du piano. Vous savez pas changer une chaîne de vélo.
Vous débrouillez bien pour quelqu'un qui ne sait rien faire.
Je joue bien de la guitare. Je me suis vanté de savoir jouer de la guitare.
On vous a dit que vous étiez meilleur à la guitare.
Ouais, je joue pas mal de la guitare.
J'ai mon style. J'ai mon style.
Un peu désaccordé, mais...
Mais plus jamais de cinéma, plus jamais de théâtre, en tout cas.
Non, alors, j'ai écrit un film... que j'aimerais réaliser à la fin de l'année. Je l'ai écrit avec Samuel Benchetrit et j'aimerais bien le réaliser cet hiver. Mais je joue pas dedans du tout. Non,
c'est l'une des nouvelles qui a pris une autre dimension.
Non, pas du tout. C'est vraiment un scénario de film. Ça aurait pu être une nouvelle de ce livre, mais elle s'est développée beaucoup plus, c'est devenu beaucoup plus long. Et puis c'était vraiment comme... puis dès le début, c'était un scénario de film. En fait.
On peut savoir le contexte dans lequel se situe le film. Un bout du synopsis?
C'est difficile à pitcher comme ça tout de suite, mais c'est une histoire familiale. C'est un frère un peu relégué qui va retrouver le reste de sa famille. Comme ça, c'est bon.
Et vous savez déjà qui va l'incarner?
Oui, je sais un petit peu. Enfin, il y a quelques acteurs qui m'ont dit oui pour l'instant, mais c'est encore le casting est encore un peu en évolution.
Un nom.
Non, je vous assure. Ah c'est comment? Il y a Mélanie Thierry qui va jouer le rôle principal féminin.
Elle a accepté.
C'était des négociations assez
tendues,
difficiles, ouais, surtout sur le salaire.
Tendu, je suis sûr. En plus, vous parlez salaire avec elle.
Exactement.
C'est un délicat, ça.
Mais non, ça me réjouit.
Parfait, on a hâte. Le tournage devrait.
Enfin, je crois que c'est très très difficile, mais ça me passionne, quoi.
Vous allez tourner cet été ou plus tard?
Je vais le tourner en décembre. Et puis je vais réaliser sûrement un documentaire aussi au mois de mai.
Sûr.
C'est encore un peu flou encore, mais ça je suis désolé, je peux pas dire grand chose, mais c'est Arte qui m'a demandé de faire un documentaire et donc il me laisse choisir le sujet, donc c'est encore un peu.
Si on est un peu au mois de mai là, si vous devez faire au mois de mai,
c'est au mois de juin alors.
C'est maintenant.
C'est beaucoup de mystères, je suis désolé.
C'est une immersion dans les camps de migrants comme ils avaient fait cette collection là, ou c'est aller à la rencontre de populations?
Non, je pense que ça va être dans une centrale qui ferme.
D'accord.
Je crois que c'est ça. La piste qui est prévue.
Et le nouvel album arrivera en septembre. Est-ce qu'il y a un titre qui sortira avant l'été, comme c'est souvent le cas?
Il y a un titre qui sort le 12 mai.
Ah oui, c'est genre la semaine prochaine.
Dans deux semaines, ouais, exactement.
Mais non, mais t'es même pas venu avec.
Bah, je l'ai pas encore. Il sort le 12 mai.
Bah, il sort le 12 mai, genre tu l'as pas.
C'est ça, je suis encore en train d'écrire les paroles.
Et il s'appelle comment? Il s'appelle comment?
Ça s'appelle L'année la plus chaude de tous les temps.
Justement, quelle est l'humeur musicale du prochain album? Est-ce qu'il y a un style, une orientation précise?
Je ne sais pas, ça me fait un petit peu... Le disque dont il sera le plus proche, peut-être, c'est ce disque qui s'appelait Pacifique de 131, où il y avait une chanson qui s'appelait Le bar de l'hôtel. C'est peut-être si vous vous souvenez de cette chanson, ou si quelqu'un l'a. C'est un peu plus dans cet esprit-là, peut-être.
Le bar de l'hôtel, c'est ça.
D'où vient le vent du matin? Que le jour chasse en chemin. Où s'en vont les poussières qui brûlent nos yeux. Nous troublent la vue et nous rendent amoureux. Des plumes dans les cheveux et rien dans les mains. Se coudre les paupières pour ne plus voir rien. C'est dans ma nature, c'est dans mon sang. Un poison violent mélange de mes parents. Est-ce mon squelette au bar de l'hôtel? Est-ce ma toilette faite au scalpel? Est-ce que ce sont mes effets aux enchères? Et cette détresse que je paye bien cher? Pour combien tu m'aimes? Combien tu me quittes, tu me tiens en laisse, tu me laisses quitte. D'où vient que je t'aimais avant? D'où vient le hockey comme on tombe la pluie? Combien coûte le bonheur d'une seule nuit? Comment sommes-nous arrivés ici? Qui a fait les océans et les cœurs brûlés? La colonne et le cou ne cessent de marcher. Est-ce que tout peut pourrir même ce qui a de plus doux? On nous jette des fleurs ou bien des cailloux. Est-ce mon squelette au bar de l'hôtel? Est-ce ma toilette faite au scalpel? Est-ce mon souvenir aux enchères? Et cette détresse que je paye si cher? Pour combien tu m'aimes, pour combien tu me laisses?
Voilà, c'est pour retrouver l'ambiance de Bar de l'Hôtel, l'ambiance en tout cas qui se rapprocherait éventuellement de ce nouvel album.
C'est plus dynamique peut-être.
Qui va arriver à la rentrée.
C'est le même ingénieur du son.
Alors moi ce que je te propose c'est que comme Gaëtan Roussel sera notre invité le 16 mai, là on va demander à Gaëtan de venir avec un ou deux extraits de cet album qu'il a produit.
Totalement réalisé.
Et comme ça on aura l'occasion et de parler de son livre et d'écouter ses productions parce que c'est un très très bon producteur aussi. C'est une
incroyable
espèce de Damon Albarn. À la française, extrêmement efficace. Voici le brouillon de culture de Leïla Kadrouboudadi pour Raphaël Laroche.
Raphaël Laroche, je vous sors de la promo un petit bol d'air, c'est notre brouillon de culture histoire d'apprendre à mieux vous connaître et on commence par un premier son pour vous.
And here we go, round one. Hagler, right off the bat.
Marvin Hagler.
Marvin Hagler, Thomas Hearn, on est le 15 avril 85 au César Palace de Las Vegas. Un match que vous évoquez, enfin un match culte pour
vous. C'est le premier round de boxe le plus fou de l'histoire de la boxe.
Racontez-nous.
C'est comme dans Rocky, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment, il y en a un qui met 20 coups de poing, 20 directs dans le visage de l'autre, puis l'autre qui met 20 directs à la suite, ça va à une vitesse folle, c'est d'une beauté incroyable. Et puis, je crois qu'il a duré très peu de temps, le match. Je crois qu'au cinquième round, c'était
couché.
Arrêt de l'arbitre, quoi. Et puis, c'est les deux plus beaux boxeurs que je connaisse, moi, Marvin et Thomas Hearn.
When we were kings, quand même.
Quoi, Mohamed Ali. Oui, bien sûr. Non, mais moi, j'aime bien les poids moyens. Je m'identifie plus à un poids moyen qu'à un poids lourd.
C'est plus rapide aussi.
C'est plus rapide.
Puisque vous aimez les documentaires.
J'ai vu, bien sûr.
Ah oui, formidable.
C'est magnifique.
Et qu'est-ce qui vous plaît autant dans ce sport que vous pratiquez, je crois?
Je pratique vraiment comme...
Comme le piano.
Comme ouais, le piano.
Avec des gants.
Non, oui, bien sûr. Ouais, c'est vraiment si un adversaire me tape à la boxe, je menace de lui faire un procès. Quoi. Donc, je respecte pas
encore
tout à
une
fait.
Encore une, comme
là.
Ça, je t'attends.
C'est pour ça qu'il boxe qu'avec son avocat. Comme ça, au moins, il n'y a pas de problème.
Vous entraînez, mais, voilà.
Mais comment...
C'est pour faire du cardio? C'est juste pour bouger?
Non, mais c'est un sport magnifique. Après, il y a quelque chose... L'idée qu'on peut se mettre sur la gueule comme des gentlemen, je trouve ça fascinant. Et puis après, oui, je trouve ça très beau à voir. Bien sûr.
Et qu'est-ce que ça vous apporte à vous?
Moi, c'est de l'aérobic. Je pourrais vraiment faire de la gymnastique comme ça. Ça serait pareil. Mais
pour travailler le cœur, le souffle.
Mais c'est pour ça, oui, c'est du cardio.
Le cœur, le souffle, la musculature. Je trouve qu'il y a un truc. Et puis c'est comme de la danse. C'est comme de la légèreté, la boxe. C'est l'inverse de.
Ah, le jeu de jambes, tellement important.
Oui, et puis tous les sports. Moi, j'aime beaucoup le sport à pratiquer, à regarder tout ça. Tous les grands sportifs, c'est le relâchement. Quand vous voyez Federer jouer, c'est un danseur, quoi. Il vole. Ou quand vous voyez même ce Floyd Mayweather, le machin, pareil, c'est inouï à quel point il n'y a jamais de tension, il n'y a jamais de crispation. C'est de la danse, quoi. Je trouve ça magnifique. Et puis, ça vide la tête aussi. Quand on se prend deux, trois coups, ça. C'est comme une machine à laver, ça fait du bien. Pas trop, quand même.
Pas trop, quand même. On poursuit avec un autre son.
Cette nuit, je cherche une camarade amoureuse. Garde la vie se tait. S'escalade à Paris sous les colonnades. Défilé d'automobiles. Des chercheuses mobiles.
Ouais, je vois très bien ce que c'est. C'est dans un court métrage que j'ai réalisé. Un court métrage un peu clip. Et c'était une chanson de...
Revox.
Ouais, une chanson de mon album Super Walter, chantée par Samuel Benchetrit. Il a une belle voix, il chante bien. C'est vrai que c'est une très belle voix.
Alors, c'est un court-métrage dans lequel un jeune homme pense qu'il peut voir à travers les murs.
Alors, c'est plus un clip qu'un court-métrage. C'est un exercice un peu particulier parce qu'en fait, c'était commandé par la maison de disques et je devais illustrer 4 chansons en clip, quoi. Et alors, comme l'exercice du clip, j'avais envie d'un peu d'en faire autre chose. On avait essayé de trafiquer un peu une histoire entre des chansons. Donc, le scénario est mince, un peu comme la feuille d'un arbre. Mais par contre, il y a des images qui sont belles. Et puis, c'est fait avec Mélanie, avec Samuel. Enfin, c'était un truc de famille. C'était super à faire, j'ai adoré.
Et si je vous dis Audiard, De Coufflet, Thomas Bideguin?
Je connais tous ces gens.
Vous les connaissez tous parce qu'ils ont tous... Alors, c'est assez étonnant. À chaque fois, vous arrivez à tisser pas mal de collaborations.
J'ai pas travaillé avec De Coufflet. Hein. J'ai pas travaillé avec lui. J'ai travaillé avec...
Audiard a réalisé la captation d'un de...
Ah, fait tout un d'une documentaire.
De vos tournées, oui, documentaire.
Et puis des clips aussi. Un clip. J'ai beaucoup travaillé avec lui. Thomas Bideguin, j'ai fait la musique d'un de son film, le Cowboy. C'était super, c'était trop beau.
Un très beau film d'ailleurs.
Et puis c'était incroyable pour quelqu'un qui justement ne connaît pas vraiment le solfège et la musique de se retrouver à diriger un orchestre symphonique, c'est fou quoi. Ils arrivent, ils sont 70 dans une pièce et tout, c'est inouï.
C'est la revanche du solfège quoi.
C'est la revanche. Vous voyez ces petites notes noires, ces trucs-là.
Je pourrais en faire une nouvelle.
Je m'en fous.
C'est la revanche.
Ouais, on peut faire une nouvelle, bien sûr, on pourrait faire une nouvelle aussi sur un prof de piano qui ne connaît pas le piano. J'ai pensé à ça là.
Un usurpateur. Et vous dessinez aussi?
Un médecin, un chirurgien
qui
n'a jamais fait d'études. Il y a plein de possibilités.
C'est plus dangereux.
Vous dessinez aussi, je crois savoir.
Je dessine mal, mais je dessine pour moi, ouais.
Mais au point de faire, par exemple, le storyboard de votre film?
Non, pas du tout, non. Je dessine vraiment comme au 14e siècle. Quoi. J'ai pas encore compris le principe de perspective, d'éloignement, des trucs. C'est compliqué.
Ça peut marcher, le dessin plat aussi. Alors, je vous offre un cadeau. C'est une bande dessinée éditée chez Casterman Écriture. C'est une très belle collection, moi, que j'aime beaucoup. C'est Pierre de Cristal, chez c'est Franz Duchazeau. Et en fait, c'est un album qui est très beau parce que c'est l'enfance, c'est l'histoire d'un enfant qui explore la vie des adultes à travers son regard, lui, d'enfant. Ça m'a beaucoup fait penser à certaines nouvelles, surtout à L'Escalier, que j'ai beaucoup aimé. Vraiment, le dessin est très beau et assez étonnant.
Merci beaucoup.
Et je me disais que ça pouvait associer l'écriture et le dessin pour vous et que ça pourrait vous plaire.
Super, c'est gentil, merci beaucoup.
Retourner à la mer, c'est Raphaël Laroche qui le signe, c'est chez Gallimard, un recueil de nouvelles qu'on vous encourage à lire et qu'on a fortement apprécié. J'ai dit quoi?
Qu'on vous encourage à lire. Mais c'est joli.
Mais oui.
C'est joli. C'est mon côté poète.
C'est mon côté dyslexique surtout. On encourage à lire.
Des excuses. Le claquage de la langue, là.
D'autres excuses à présenter.
Oui, alors désolé. Désolé pour Dieu. Dieu qui, je le sais, nous écoute et qui ce matin était quelque peu choqué d'être comparé avec Airbus. Enfin bon. Honte à vous, d'écrire. Vous brûlerez tous en enfer. Désolé pour le CSA qui a été très choqué par la défense, voire la promotion de l'alcoolisation massive et trash par Leïla Kadour Boudadi. En même temps, les gars, attendez, elle a une excuse. Elle est ivre morte. Désolé pour Penelope Cruz. Eh oui, le pervers belge est drogué et à la fois héritier de Marc Dutroux. Guillermo Guise vous a souillé dans sa chronique et il nous a confié qu'il avait trouvé votre adresse ainsi que le digicode. Courage Penelope, si te colle vraiment trop, viens à la maison. Moi, je suis clean.
Merci Daniel. Merci Albert, merci Leïla, merci Guillermo. C'est Sergi Lopez qui sera notre invité lundi dans la bande originale. Merci Raphaël.
Merci Laroche, beaucoup.
Portez-vous
beaucoup.
Bien et donc à très bientôt cette fois-ci pour la musique, pour le film, pour la totale.
Et bravo pour le livre.
Quel talent. Merci bonne journée. Ce sont les carnets de campagne de Philippe Bertrand et à lundi.